chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter un nouveau chemin de foi, un parcours spirituel intéressant par sa complexité et que nous essaierons de déchiffrer en le replaçant dans son contexte historique. J'ai choisi de m'attacher cette fois à la personnalité assez paradoxale d'un roi de France qui fut aussi un saint. Ce qui n'est pas évident que, quand on pense à quel point le pouvoir impose souvent des compromissions dangereuses pour la foi. Donc ce saint, c'est Louis IX, Saint Louis, qui vécut au XIIIe siècle, de 1214 à 1270. Dans ce XIIIe siècle, qui est considéré comme un véritable âge d'or pour la vie chrétienne, en effet, quand Louis IX voit le jour, nous sommes à la fin de l'important pontificat du pape Innocent III, c'est-à-dire à l'apogée de la papauté médiévale. Ce pape va radicaliser la puissance du Saint-Siège de façon à renforcer son autorité suprême et garantir l'unité de la chrétienté. Il va se présenter dorénavant comme vicaire du Christ, et non plus comme avant, on disait vicaire de Pierre pour les évêques de Rome. Donc Innocent III va revendiquer la plénitude des pouvoirs en ce monde et il n'hésitera pas à s'attaquer au pouvoir des rois ou des empereurs. Mais en même temps, il va s'appuyer sur des fondations religieuses nouvelles de Saint François d'Assise et de Saint Dominique, ces ordres mendiants, mais qui sont aussi des ordres de prêcheurs auxquels il va confier des tâches importantes d'évangélisation et de lutte contre les hérésies. Et surtout, Innocent III va susciter le plus important concile du Moyen-Âge, le concile de Latran IV en 1215, où furent établies principalement des règles de droit canon qui subsistent encore de nos jours, pour certaines. Nous sommes clairement à une époque où l'Église triomphante s'impose à la vie du monde. En Occident, la foi au Christ est devenue une norme à laquelle il n'est plus guère possible d'échapper. Et de plus, elle commence à faire l'objet d'une surveillance de plus en plus resserrée. Le pape veut mettre de l'ordre dans les esprits, autant que de la discipline dans l'Église, et nous voyons déjà poindre les méthodes de l'Inquisition. Il faut dire que globalement, la situation est quand même compliquée. À l'intérieur de l'Église apparaissent des critiques, des contestations de certains aspects du dogme et de certaines pratiques religieuses qui sont imposées. Et ceci est la conséquence d'un essor économique général qui permet le développement des techniques, des sciences et des études en général. C'est l'époque où naissent les universités, et celle de Paris est même devenue le centre du monde intellectuel. Il y a toute une population laïque qui développe ses connaissances et se donne le droit de réfléchir librement. Et si on voit pousser partout de superbes cathédrales, la ferveur populaire qui fournit l'énergie matérielle pour bâtir ces extraordinaires édifices, cette ferveur populaire bouillonnante engendre aussi des nouvelles dévotions et parfois des croyances à la limite de la superstition. Il faut voir qu'une foi imposée comme une obligation sociale a parfois beaucoup de mal à pénétrer en profondeur les cœurs. Le christianisme est alors plus souvent tissé d'habitudes culturelles et malheureusement mêlé de superstitions. On s'attache surtout à cette époque aux merveilleux, aux signes, aux miracles, à la puissance des reliques comme protection, mais c'est souvent au prix d'une pénétration assez superficielle des enseignements du Christ. On peut donc comprendre que le pape s'inquiète de ce déferlement de nouvelles idées et même de nouveaux cultes qui divisent les chrétiens. Donc, il va dépoussiérer l'antique notion d'hérésie et on se met au travail pour ramener tout le monde sous l'autorité ecclésiastique et l'obéissance au magistère, surtout pontifical, pour éviter surtout que la foi ne parte dans tous les sens. Ce chantier, vous le savez, est pourtant tellement multiforme, insaisissable et impossible à contrôler qu'on aboutira quelques siècles plus tard quand même à un schisme et à la naissance du protestantisme. Mais c'est une autre histoire. Pour le moment, au XIIIe siècle, la volonté d'unité prend le dessus. Ce qui n'est en fait déjà plus très réel depuis le schisme de 1054, rappelons-nous, qui entérina la séparation de l'Église d'Orient. Et cela a eu de graves conséquences, même pour le pape Innocent III, qui va lancer la quatrième croisade, donc pour la défense des lieux saints, qui sont, nous sommes en pleine période de conflit avec l'islam. Or, en 1204, la quatrième croisade va aboutir en fait à la prise et au pillage de la ville chrétienne de Constantinople, donc au massacre de frères chrétiens d'Orient pour établir là, à sa place, un empire latin d'Orient. Empire latin qui ne subsistera que pendant une cinquantaine d'années avant d'être à son tour détruit par les Byzantins. Donc, en fait, on est très loin de l'unité chrétienne déjà à cette époque. Il faudra attendre 2004 et les excuses du Saint-Pape Jean-Paul II à l'Église orthodoxe pour tenter de réparer les dégâts causés au XIIIe siècle. Dégâts auxquels il faut ajouter bien des problèmes à l'extérieur de l'Église cette fois. Car le grand tourment du XIIIe siècle, c'est l'émergence de l'Empire mongol et la puissance de Gengis Khan qui va déferler sur l'Europe et engendrer des peurs assez irraisonnées. Et cela aussi occupera l'horizon non seulement du pape Innocent III, mais aussi du roi Louis IX. Après ce petit tour d'horizon de la situation du monde chrétien au XIIIe siècle, concentrons-nous sur les circonstances qui entourent la naissance de Louis, le 25 avril 1214. Il est le fils du roi Louis VIII et de Blanche de Castille. Mais surtout, ce qui n'est pas rien, il est le petit-fils de Philippe Auguste. On verra pourquoi c'est important. Saint-Louis fait donc partie de la dynastie des Capétiens, et cette dynastie est marquée dès son origine par une extrême piété. Hugues Capet, le fondateur, fut surnommé le roi prêtre. Son successeur, Robert le Pieux, va frôler la canonisation. En fait, les Capétiens sont profondément convaincus du caractère sacré de la monarchie et de l'importance d'une vie chrétienne exemplaire, pour le roi surtout, soutenu, conseillé par l'Église et ses principaux dignitaires. On connaît par exemple l'influence de l'abbé Sugère de Saint-Denis, qui fut conseiller des rois Louis VI et Louis VII, en faisant presque office de premier ministre et même régent de France pendant que Louis VII était à la croisade. Donc être roi, c'est forcément être très chrétien et même surtout un très bon chrétien, si possible un saint. Rappelons-nous que les rois sont sacrés, hein, dans la plus pure tradition biblique, en recevant une onction d'huile sainte. On dit même que c'est encore l'huile qui provient de la sainte ampoule miraculeuse qui fut employée au baptême de Clovis. Donc cette onction fait du roi un roi de droit divin, qui tient donc son pouvoir directement de Dieu. Et depuis Robert le Pieux, on attribuait même au roi des pouvoirs de guérison miraculeuse. Ils avaient le pouvoir de guérir ce qu'on appelait les écrouelles, une sorte d'abcès d'origine tuberculeuse, je ne sais pas très bien ce que c'est. En tout cas, quand le petit Louis vient au monde, il est déjà appelé à être un saint. Il y est presque contraint, forcé, pour le bon ordre de la monarchie. Alors, il faut quand même être honnête, ses ancêtres y arrivèrent plus ou moins bien. Hein, et certains ont même risqué l'excommunication. Il y a souvent un fossé entre ce qui devrait être et ce qui existe réellement. Par exemple, Philippe Auguste, le grand-père, fut lui-même proposé pour être canonisé à cause de tous ses exploits formidables et surtout parce qu'on disait qu'à sa mort, il avait apparu plein de signes, de visions, de guérisons miraculeuses, etc. C'est très important à l'époque, tous ces signes. Mais à Rome, on n'était pas du tout du même avis. On a mis plutôt sur le tapis sa vie conjugale pas très catholique et quelques conflits avec un pape précédent qui vont constituer donc un obstacle majeur. Et la tentative de canonisation de Philippe Auguste va échouer, rattrapée qu'elle sera par la réalité. Mais voilà donc l'ambiance autour des rois. On avait des hautes prétentions, on se faisait aussi beaucoup d'illusions et surtout, en fait, on restait très pragmatique devant les réalités de la vie. Il faut quand même bien se dire que dans la Bible également, les rois qui servent de modèle, qui ont pourtant reçu l'onction divine des prophètes, des grands prophètes, ils sont très rarement à la hauteur de leur charge. Très rarement, si donc les modèles étaient déjà imparfaits. Il est difficile d'espérer beaucoup mieux des rois de l'histoire commune. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse sur l'histoire de la royauté dans la Bible, parce que cette institution se fait, rappelons-nous, complètement contre la volonté de Dieu. Vous pouvez lire cela dans le premier livre du prophète Samuel, chapitre 8. C'est seulement pour répondre à la demande insistante du peuple hébreu que Dieu finit par céder à leur désir. Je vous lis le verset 7 du chapitre 8 qui dit ceci. Le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Donc, on voit bien dans la Bible que l'onction royale ne sera jamais une garantie d'obéissance du monarque à la volonté de Dieu, puisque déjà, être roi, ce n'est pas tout à fait ce que voulait Dieu. Alors, des fois, ils obéiront, et des fois, pas du tout. Et ce sera le plus souvent, ils n'obéiront pas. C'est pourquoi le prophète Samuel devra avertir le peuple des conséquences pénibles de ce choix. Mais on sait que le peuple hébreu va s'obstiner et la royauté va s'installer en Israël et Juda jusqu'à l'échec total et l'effondrement catastrophique qui va les conduire en exil à Babylone. Donc, le modèle biblique de la royauté, ce n'est pas forcément un soutien pour les rois catholiques si on y regarde d'un peu trop près. Donc je suppose qu'ils ne regardaient pas trop près pour ne pas être démoralisés. En tout cas, le simple fait d'être héritier dans la famille royale capétienne constituait, dès la naissance, une énorme pression. Un souverain doit être formé, et pour ne pas dire formaté, pour la fonction royale, pour qu'elle soit intimement liée à la vie de l'Église. Donc l'enfance du futur Louis IX fut solidement encadrée, et très probablement aussi fortement marquée par la proximité de son grand-père Philippe Auguste. En effet, celui-ci avait environ 50 ans quand le petit Louis vint au monde, et Philippe Auguste avait pris une retraite bien méritée après des années de guerre, laissant faire son fils, etc. Il était devenu disponible pour l'éducation de son petit-fils, qu'il a pris très au sérieux. On sait que Saint-Louis se souvenait avec beaucoup d'émotion de sa relation avec son illustre grand-père, auprès de qui il avait appris dès son plus jeune âge son métier de roi. Et quand je dis jeune âge, c'est vraiment très jeune. Car Philippe Auguste meurt en 1223, Louis n'a donc que 9 ans, et à peine 3 ans plus tard, en 1226, c'est son père, le roi Louis VIII, qui meurt, après seulement 3 ans de règne, et donc l'enfant Louis devient Louis IX, roi de France, à l'âge de 12 ans. Nous retrouvons donc Louis IX, roi à 12 ans, héritier du royaume de France, ce royaume dont son grand-père Philippe Auguste avait par ses conquêtes quadruplé l'étendue du territoire et qui était à ce moment-là le pays le plus peuplé proportionnellement et le plus prospère du monde chrétien d'Occident. Les caisses du trésor étaient bien remplies, il y avait une solide armée, bien établi et disponible en cas de besoin. L'administration du pays était parfaitement organisée avec une centralisation monarchique et la royauté avait su quand même se faire apprécier du peuple, favorisant ainsi un sentiment patriotique autour de la personne du roi. Et bien que très bref, le règne de Louis VIII avait consolidé cet héritage opulent laissé par le grand-père. Alors, bien sûr, il subsiste quand même quelques nuages dans ce ciel particulièrement favorable. Par exemple, toujours la présence anglaise au sud-ouest du territoire et Henri III qui guette pour essayer de reconquérir tout ce qu'il avait perdu. Il y avait aussi au sud de la France des problèmes avec les Albigeois. De plus, toujours des problèmes en Terre Sainte. sans oublier cette sérieuse inquiétude face aux invasions mongoles. Mais enfin, l'un dans l'autre, on peut dire que l'héritage transmis à Saint-Louis est quand même plutôt confortable. Il était ce qu'on pouvait appeler un roi riche, né dans une dynastie puissante et qui bénéficiait du soutien de l'Église. On peut donc penser que Louis IX avait beaucoup de chance. Ouais. Mais il n'a quand même que 12 ans. Et quand on sait qu'au Moyen-Âge, un roi chrétien hérite d'une responsabilité plus grande que celle du pouvoir temporel, parce qu'en vertu des serments du sacre, le roi est responsable devant Dieu de son royaume, mais aussi du salut de son peuple. C'est lui qui rendra compte devant le tribunal divin. On imagine sans peine la pression que subit ce tout jeune roi. Il est impossible qu'il puisse y faire face tout seul. Alors, les historiens n'ont pas résolu à savoir si ce fut par la volonté de son père mourant ou simplement un coup de force de sa mère pour s'emparer du pouvoir, mais en tout cas, le jeune roi Louis IX et son royaume vont passer sous la tutelle de la veuve de Louis VIII, la reine mère, Blanche de Castille, âgée alors de 38 ans. Et cette tutelle est certainement une période qui va profondément marquer la personnalité de Saint-Louis, car sa mère va se montrer tout à fait à la hauteur de cette lourde tâche. C'est la femme forte de la Bible. Elle saura faire preuve de caractère, elle va se saisir du pouvoir et l'exercer avec grande fermeté. Mais il reste quand même que seul Louis recevra l'onction royale. C'est lui qui sera sacré à Reims, donc en 1226, juste après la mort de son père, car dans la dynastie française, les femmes ne sont jamais sacrées. C'est encore là l'influence de l'Église et de la Bible, selon lesquelles seuls les hommes pourraient recevoir une onction divine. C'est vrai pour la royauté comme pour la prêtrise. Mais ici, il n'y aura aucun problème, parce que le jeune roi et sa mère s'entendent parfaitement et vont se compléter pour assurer la direction du royaume, et cela au moins jusqu'à la majorité de Saint-Louis, qui fut déclaré probablement quand il atteint l'âge de 20 ans. Mais leur collaboration ne va pas s'arrêter pour autant. Si Blanche de Castille va progressivement s'effacer comme dirigeante, elle restera jusqu'au bout une conseillère aimante et sûre. Et elle devra d'ailleurs reprendre les commandes du pouvoir lors du départ de Saint-Louis à la croisade en 1248. Nous en reparlerons, bien sûr, plus tard. Pour le moment, donc, nous sommes aux côtés d'un roi de 12 ans qui doit s'appuyer sur sa mère pour assurer sa dignité royale et aussi pour parfaire encore son éducation chrétienne, car Blanche de Castille était connue pour sa grande piété. Alors, il faut aussi savoir que pour être sacré roi, tout enfant qu'il fût, Louis dut se conformer à la règle qui voulait qu'on soit d'abord adoubé chevalier. Par ce rite, il est symboliquement propulsé dans l'âge adulte avant d'accéder à son sacre, donc, qui aura lieu dans la cathédrale de Reims, qui n'est pourtant pas encore tout à fait terminée. On imagine facilement, moi j'imagine un petit gamin en train de se faire adouber chevalier, que ces cérémonies ont pu être impressionnantes pour ce jeune garçon, de même que son sacre, parce qu'il s'agit vraiment de rites interminables auxquels il ne devait probablement pas totalement comprendre les raisons. Il devait être chargé d'un manteau prévu pour un adulte, des lourds manteaux ornés et des insignes royaux imposants, une couronne sur la tête, sûrement pas prévue pour celle d'un enfant, d'un poids. Alors, on dit en plus que la cérémonie fut assez glaciale. Peu de prélats, quelques rares dignitaires du royaume, très peu d'assistance. C'est simplement l'évêque de Soissons qui va assurer la consécration parce que l'archevêque de Reims était décédé un peu avant. Donc, pas vraiment de grande réjouissance ni de grande festivité pour entourer le jeune roi, mais plutôt une brutale initiation à la dureté de son destin royal. Alors, pourquoi une telle ambiance? Parce que on s'est précipité pour trouver une date pour le sacre tout de suite. Le danger, c'est la peur de ce qu'on appelle la vacance du trône. Hein, s'il y a trop d'espace et devant la fragilité supposée d'un enfant et d'une femme, tant qu'il n'était pas sacré, il pourrait y avoir un coup de force et une prise de pouvoir par les nombreux cousins et autres frères qui guettaient. Donc, on est tout de suite dans la politique qui entoure le pouvoir. Mais selon la formule classique, il paraît, hein, vous savez bien le proverbe, « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». En tout cas, pour le jeune roi Louis, c'est certain, il s'est renforcé. Tous ces événements l'ont aguerri et fait mûrir précocement. Il s'est ajusté avec grand sérieux à tout ce qu'on attendait de lui. Il va se montrer à la hauteur pour son métier de roi. Et nous verrons la suite la prochaine fois. Nous verrons comment va s'amorcer ce règne avec l'aide de sa mère. Et je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.